Je suppose que c'est comme ça. C'est fort.
C'est parti. Bon. Donc tu disais, venons-y, maintenant un arabe n'est pas passé. Tu dis que tu as beaucoup aimé le livre.
Oui, en effet. J'ai beaucoup aimé le livre et j'ai beaucoup aimé l'écriture. Très gentiment, Corinne me l'avait envoyé. Je me suis dit, tiens, je vais... Et le titre est déjà très, très accrocheur. Enfin, accrocheur, non, mais c'est un beau titre. Je ne sais pas, il est à la fois plein de poésie et on veut savoir un peu quoi. Et puis l'image est très belle. Mais alors, l'écriture est superbe. C'est vraiment... Tu es un écrivain, là. J'ai relu encore tout à l'heure, cet après-midi, des passages avec la mère. C'est fabuleux, cette mère qui ignore sa fille, et la fille voudrait vraiment dans le regard de sa mère, et voudrait même être dans l'œil de sa mère pour que sa mère la regarde. Mais sa mère, en fait, la regarde jamais, ou du moins ne la voit pas. La regarde, mais ne voit pas cette fille. Non, j'ai vraiment aimé, c'est un très très beau livre.
Merci, moi aussi, j'ai beaucoup aimé Lydia, et je l'ai encore, j'ai aussi relu encore des passages tout à l'heure, et j'ai trouvé très touchant la façon dont tu as mené ce récit à travers le regard de la petite Julie, et cette façon, il y a plusieurs univers qui se croisent et qui se tissent dans ce roman. Il y a Lydia qui est mourante, qui est centenaire et qui est merveilleuse dans tout son questionnement de femme vieillissante, et alors dans tous ces flashbacks qu'il y a sur son action pendant la guerre et sur son intérêt encore pour la guerre qui se passe au Kosovo.
Ah oui.
Et alors il y a sa petite fille de 6 ans qui vient la voir et ce regard de cet enfant sur cette vieille personne. Et puis j'ai trouvé ça vraiment très 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 beau et très réussi. Merci.
Oui. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, on va enfin pouvoir commencer la soirée.
Je te reproche rien.
On n'a pas perdu son temps.
Mais c'est bien.
Je veux dire simplement que quand Corinne m'a appelé en disant est-ce qu'on ferait un débat à tropisme avec mon livre et le livre du Guette, j'ai dit oui tout de suite, du fait même de la dialectique entre les deux livres.
Ce sont
deux démarches, deux méthodes, deux regards et deux écritures fort différentes. Je crois que c'est dans cette mesure-là qu'elles peuvent s'apprécier l'une l'autre à ce point-là. Parce qu'elles parlent de deux planètes différentes. Et sur chaque question de la démarche littéraire, l'attitude est vraiment, pas antagoniste, parce que d'une certaine façon, elle s'ignore. C'est-à-dire que d'un côté, il y a chez Huguette, on le sent bien, un souci d'exactitude, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas tricher avec l'histoire avec un grand H. La preuve, c'est que le livre se termine par des documents, donc tout un aspect documentaire, des pièces à conviction, en quelque sorte, qui précisent exactement ce qu'a été le mouvement de résistance auquel a participé Lydia. Il y a des notes en bas de page, comme dans des travaux savants, notamment une qui concerne les bienveillants, par exemple, une question simplement de H derrière le T, auquel elle a bien raison d'attacher une telle importance. Donc c'est comme si tu avais à te justifier devant une certaine idée de la vérité. Comme si tu te disais, je témoigne, ou pas.
Oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai trouvé ces documents après la mort de Lydia, et ce sont des documents, c'est énorme, c'est une farde comme ça, où il y a toutes les renseignements que les 5 agents de Lydia donc avaient récoltés et lui donnaient. Elle aurait dû chaque fois. En réalité, ça se passe comme ça, quand elle reçoit d'un agent des renseignements, elle peut le recopier mais le garder une semaine, pas plus, mais il doit le transmettre évidemment à un chef. Et puis ça doit être brûlé. Elle n'a jamais rien brûlé, elle a tout gardé. Et elle a toujours trimballé tout ça au nez à la barbe des Allemands, parce que Lydia a été, et toute la famille a été en 1943, lors de la débâcle allemande, les Allemands ont chassé cette famille. Donc, elle a donné une partie des documents à une de ses petites filles, parce qu'une petite fille, on ne pouvait pas se... bon, c'était pas dangereux en principe. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de choses qui sont racontées dans le livre. Et c'est évident que je crois que il y a en moi une sorte d'historienne qui s'ignore, parce que quand j'étais en classe, j'avais horreur d'histoire. Je me plongeais dans l'avenir. Et je me dis, l'histoire, c'est assommant, c'est fini, c'est terminé, c'est. Alors, j'étudiais les chapitres, simplement. Les noms des chapitres, et je réussissais mes examens grâce à ça.
Et le reste, il brodait autour.
Oui, mais je faisais ça. Non, mais vraiment, pour retenir ce qui se passait, c'était les chapitres donc, et les sous-chapitres. Donc, il y avait une structure, et là, bon, et probablement que j'ai encore ça en moi. Et j'ai voulu montrer, à travers Lydia, qui est son mère, 100 ans de guerre en Europe, donc la guerre de 14, Lydia avait 15 ans, la guerre de 40, puis la guerre froide, puis la guerre du Kosovo, et entre-temps, le génocide rwandais.
Donc, tu as consacré un autre livre.
Là. Oui, auquel j'ai consacré « Ourao, es-tu toujours vivant ?» Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, enfin j'ai un peu...
La question n'est pas là, la question est de savoir quelle est des choses.
Oui.
Mais l'autre point, c'est celui du jeu transgénérationnel. Parce que, effectivement, dans les deux livres, la question de la relation entre générations est centrale. Dans un cas, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, on a l'impression qu'il y a un gouffre intergénérationnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de regard de la génération précédente sur la suivante. Et donc une espèce de désespoir de la génération suivante, dont d'ailleurs ma robe n'est pas froissée, donne un sentiment très très poignant. Parce que c'est un livre qui a beau, comme tu le dis, être dans le projet d'une œuvre d'art, c'est-à-dire d'un texte. Mm-hmm. C'est un livre qui prend à la gorge. Alors, prend-on à la gorge avec une émotion factice, avec une émotion réelle, ça n'a aucune espèce d'importance en art. On est bien d'accord avec ça.
L'émotion est réelle.
Oui, quelle émotion parle-t-on là?
L'émotion qui est dans le texte...
Oui. Au moment où le texte s'élabore.
Oui, bien sûr. Oui. L'émotion est là. Je ne joue pas avec, avec l'émotion.
Ah, non, ça, je comprends.
Non, pas du tout.
Est-ce que je peux dire que... Parce que l'écrivain se glisse dans la peau de ses personnages. Donc, je suppose que Corinne s'est glissée dans la peau de cette petite fille, dans la peau de la mère et dans la peau du père, et qu'elle a pu, comme ça, donner les émotions, ou les non-émotions plutôt aussi pour les parents. Donc, elle a pu se glisser dans ses personnages, elle s'est glissée dans la petite fille, et alors, évidemment, quand on écrit d'une chose aussi poignante, elle éprouve en écrivant de l'émotion qui traverse le lecteur aussi. Donc, c'est tout à fait évident. Par exemple, moi, pour Lydia, je peux dire que je suis chacun de mes personnages. Je suis Lydia, je suis la petite Julie, je suis Michel, je suis Gauthier, Arnaud, enfin, tous ceux qui tournent autour de Lydia. Je suis tous ces personnages-là. Mm-hmm. Parce que j'ai ressenti, en écrivant, tiens, petit Gauthier doit éprouver ça, et puis alors je le mets. Et c'est ça l'imaginaire. On imagine qu'est-ce que va penser les personnages dans un contexte donné.
Oui, mais c'est au-delà de l'imaginaire. Parce que pour moi, mon émotion, elle est avec, pas tous les personnages peut-être, c'est l'émotion à partir de la narratrice surtout. Parce qu'il y a quand même, chez moi surtout, une narratrice. chez toi, il y a probablement aussi, il y a Isabelle,
il y a Lydia,
les trois personnages les plus importants sont quand même les dialogues entre Lydia et Isabelle, et Julie. Oui. Et là, je pense qu'il y a vraiment un ressenti pour se mettre aussi bien dans la peau d'un enfant que tu fais avec Julie. Bien sûr, à ce moment-là, Oui, ici, je ne sais pas, c'est une émotion très forte, mais dans la personne de la narratrice surtout, mais qui est au-delà de imaginer ce qu'elle doit ressentir. C'est vraiment une empathie réelle quoi, avec le personnage, tout en créant des situations dans lesquelles cette émotion peuvent servir cette émotion finalement. Mais c'est ça qui est le socle du livre, c'est ce ressenti.
On ne peut pas s'empêcher, si on confronte les deux livres, parce qu'ils sont là tous les deux sur la table aujourd'hui, de quand même se poser des questions, j'allais dire, presque d'ordre politique et sociologique. C'est-à-dire que d'un côté, on voit fonctionner un système familial, dans lequel le courant passe, dans lequel un certain comportement, qu'on peut même qualifier carrément d'héroïque, contamine presque le milieu, même des gens plus ou moins réservés, plus ou moins sceptiques devant ce qui se passe, enfin en gros il y a adhésion, comme si il était possible qu'un ensemble humain palpite plus ou moins même rythme. Et de l'autre côté, on a le contraire, c'est-à-dire une structure collective, minimale, mais dans laquelle le courant ne passe pas. Alors la question, on pourrait se demander, pourquoi le courant ne passe pas? Alors, prenons-le tous les deux comme des romans. Comment se fait-il que le courant passe d'un côté, ne passe pas de l'autre? Est-ce que c'est lié à des structures psychologiques? Est-ce que c'est lié à une dynamique de groupe? Est-ce que c'est lié à une psychoscolaire familiale? Est-ce que c'est lié à un conditionnement historique? Est-ce que c'est à une époque, à un milieu? Voilà.
Non, mais on est dans la même époque. Hein. On est sauf dans les flashbacks, mais sinon on est dans la même époque, dans les deux. Donc c'est pas ça. Je pense que le livre de Huguette, c'est une grande structure familiale, de grande famille, avec sa tradition, et cette tradition crée un cadre, crée une structure dans laquelle la religion tient de la place peut-être aussi, je ne sais pas si ça crée un... Si, je n'en sais rien, ça moi je ne connais pas bien. Il y a beaucoup d'interrogations religieuses qui montrent que les gens se questionnent très loin ensemble. Et les filles essaient, dans ces angoisses des derniers moments de Lydia, la fille essaie de lui répondre, mais il y a vraiment une affection, une écoute de l'autre, une attention à cette mère mourante qui est... Et pourtant, Isabelle n'a pas reçu de sa mère le regard ni l'amour fondateur qu'elle aurait aimé trouver. Ça arrive à la dernière minute.
Tout à fait.
Oui. Comme ma narratrice va jusqu'au dernier moment, elle va jusqu'à la fin de la vie de sa mère, dans cette seigneurie, chaque dimanche, se fait rabrouer chaque dimanche, les tulipes ne sont pas bonnes, le châle n'est pas bon. Elle attend toujours ce regard et elle ne le reçoit pas. Évidemment, la mère n'est pas morte dans mon histoire, mais enfin, on dirait vraiment que c'est peine perdue et qu'elle continue à vouloir convenir, à vouloir plaire à une mère qui ne la voit pas de toute façon. Chez toi arrive ce moment du dialogue, mais peut-être parce qu'il est annoncé par une attention.
Oui, mais tout d'un coup, Lydia dit à sa fille, je t'aime et je sais que tu ne le sais pas. Et alors, elle allait partir, Isabelle allait partir et elle revient vers sa mère et elle se dit, mais pourquoi si tard tout d'un coup dire ça, tout d'un coup quand je n'ai plus besoin de l'amour de ma mère et que je donne comme je peux l'amour à mes enfants et à mon mari. Bon. Et elle, c'est comme si ça ne venait pas en elle, cette parole, c'est comme si c'était... Son cœur était fermé.
Il glisse comme de l'eau.
Oui, comme de l'eau. Enfin, c'est un peu triste, mais enfin bon, c'est comme ça.
Qu'est-ce que tu dis dans le livre? Mais il y a une réponse et il y a Isabelle lui répond.
Ah, mais c'est-à-dire que
L'amour a été dit.
Oui, l'amour a été dit.
Même si, même, oui. Il n'a peut-être pas été dit au bon moment, mais est-ce jamais au bon moment? Quel est le bon moment? Il n'a pas été dit.
Je sais que tu m'aimes, la mère dit, je sais que tu m'aimes.
Oui.
Voilà.
Ça a été transmis.
Elle n'a jamais dit.
Oui, mais ça a été transmis avant la mort.
Oui, ça a été transmis. Mais la fille n'a pas transmis, n'a pas dit, moi je t'aime, tu sais.
Non?
Ah non. Mais elle, Lydia, sait que ça. Je sais que tu m'aimes. Mm-hmm. Voilà. Elle n'a rien répondu à ça, elle était tellement estomaquée, elle n'a rien répondu, voilà. Mais alors, l'histoire des religions, toute la religion sur la religion, celui qui est acculé à la fin de sa vie se pose des questions. Et je crois que les athées, tout le monde, les croyants se posent des questions. D'ailleurs, j'ai eu des lettres à ce propos. Des lettres et une lettre d'un prof athée de l'université qui m'a dit c'est un véritable chef-d'œuvre. Toute cette partie de la conversation entre la fille et la mère à propos de la religion et de la mort. Voilà. Pour lui, c'était un chef-d'œuvre. Il employait ce mot-là. J'étais très étonnée. Oui. Et c'est un athée.
Ce sont des livres si très belges, pas du tout au sens anecdotique du terme, mais... on va commencer quand même à se interroger un peu sur ce que c'est la Belgique maintenant que on entame peut-être un compte à rebours. Donc on va enfin considérer que c'est une vision d'esprit et que cette vision d'esprit est composée de toute une série d'éléments abstraits, conceptuels. Et ces deux livres sont emprunts. Vous connaissez cette très belle définition de la Belgique, je trouve que c'est la plus belle. Ce que j'ai retenu, c'est celle de Jean Milot. Il disait la Belgique est un trois pièces avec vue sur la mer. Et il y a la pièce de devant qui a vue immédiate sur la mer, la pièce arrière qui a vue sur
les jardins.
sur les jardins, oui. Sur
dans les hôtels, ballons, quand on est sur le parking.
Et sur la baraque friture et la cascade de l'eau et tout ça. En gros, d'un côté, il y a un livre qui a vu sur la mer, c'est celui de Corinne, et un autre qui a plutôt vu sur l'arrière-pays, et aussi sur un pays aussi un peu souterrain, qui est, Lydia, l'éclat de l'inachevé. Et la perception du territoire crée deux types d'héroïsme, parce qu'il y a de l'héroïsme dans... ma robe n'est pas froissée, mais c'est une mythologie effectivement de la mer, de la voiture, de la route, fortement incarnée par le père d'ailleurs. De l'autre côté, c'est plutôt la bicyclette, parce que Lydia est souvent en bicyclette. Les longues distances, oui, tout ça. Sur un petit territoire où on sent qu'énormément de romanesque et potentiel. Mm-hmm. Il suffit de le glaner, ce que vous faites d'abondance. Il y aurait énormément d'exemples à donner dans les deux cas, d'ailleurs, de toute une série de totems pleinement d'ici, et dans lesquels vous vous sentez toutes les deux très à l'aise.
Mm-hmm. Oui, Lydia s'en va, elle traverse toute la Belgique. Mm-hmm. Et en fait, elle va en Flandre, elle va en Anvers, en bicyclette, donc, et elle parle là le plat de Vlaams, comme elle connaît très bien le flamand, finalement. Mais c'est une francophone de Flandre, voilà. Et ça, c'est là qu'on voit que maintenant la Belgique n'est plus comme je la décris là en 43. Là, c'était encore la Belgique. Il y avait les Flamands, les Wallons, mais tout le monde s'entendait. Et tout le monde s'entendait contre l'ennemi qui étaient les Allemands, évidemment. Donc là, ça... Mais dans les renseignements qu'elle recevait, elle disait, oui, le mouvement flamand est encore très, très aigu, et c'est surtout les curés qui sont responsables de cela dans leurs prêches le dimanche. Tout ça, c'est dans ces renseignements. C'est tout à fait amusant, parce que je n'ai mis qu'une infime partie des renseignements au bout de mon livre, pour montrer que c'était basé... En fait, j'ai voulu montrer que c'était basé sur ces renseignements-là. Voilà. Et tu avais quelque chose à dire aussi, je pense, au propos là,
non,
de la Belgique.
Mais les totems qu'il y a dans mon roman, je ne sais pas auquel tu penses, au cuistax, au...
Oui, notamment, par exemple.
Au cuistax, à la seigneurie, parce que, il paraît, je ne le savais pas, mais seigneurie, ça n'est pas utilisé du tout en France. Ils ne savent pas, quand je leur ai dit, voilà, la mère est dans une seigneurie. Ils m'ont demandé ce que c'était une seigneurie, donc une maison de repos. Voilà. Donc, je ne m'en suis pas rendu compte, là. Quels autres... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en avait peut-être plus dans le grand menu, parce que dans le grand menu, il y avait pas mal de phrases en flamand. Ici aussi, quand même, Morgenstund et Scott in the Mond. Donc, l'aube appartient à ceux qui se lèvent tôt. Non, l'aube a de l'or dans la bouche. Oui. A de l'or... oui. Bon, j'ai fait ça avec naturel.
Comment avez-vous construit vos livres? Parce que dans le cas de Corinne, ça va un peu dans le sens inverse du grand menu d'ailleurs, hein, qui partait dans un ordre chronologique. Ici, on part du présent et on renvoie.
Oui, c'est vrai.
Et la conclusion vient à une certaine forme, peut-être d'élucidation, vient dans la troisième partie.
Oui, c'est-à-dire que la troisième partie est antérieure aux deux, dans le temps, dans la temporalité, la troisième partie est antérieure aux deux autres, mais je l'ai mise en troisième lieu parce qu'elle est, un peu comme la conséquence du comportement qui est montré dans les deux premiers. C'est-à-dire que le livre est construit en trois parties. La première est consacrée au père, la deuxième à la mère, et la troisième à la rencontre avec le premier homme que rencontre la narratrice. Et qui est finalement celui qui accomplira le passage à l'acte de ce qui se trouve en germe dans le comportement du père et de la mère, étant donné que le père n'offre à la narratrice que du mépris, que du rejet, que la mère elle-même ne l'investit pas d'amour et ne lui lègue pas le féminin, elle ne lui donne pas accès à ce qui est fait, à sa féminité, et elle ne la voit pas. Donc cette narratrice qui est inexistante pour ses parents ou qui est objet de mépris, bon, quand elle rencontre le premier homme, bon, elle n'existe pas, elle est quantité négligeable, et donc cela donne, ouvre la possibilité à cet homme de la maltraiter. Évidemment, je parle d'abord du père et puis de la mère, parce que en les montrant, pour ce qui est du père, la narratrice dans la première partie s'adresse à lui après sa mort. Et pour ce qui est de la mère, elle s'adresse à sa mère elle parle de sa mère alors que la mère se trouve très vieille dans une seigneurie à la mer du Nord. Donc ça montre ce que sont les parents, et cela permet de mieux comprendre quand on arrive dans la troisième partie qui se passe quand la narratrice avait 20 ans, 18-20 ans. Ça explique, ça montre comment cela a été possible. Par le fait d'avoir mieux compris comment fonctionnent les parents et comment a fonctionné toute l'existence de cette narratrice, parce que cette demande est restée...
C'est-à-dire qu'on peut comprendre quelque chose qui nourrit la première et la deuxième partie, surtout la deuxième, c'est le ressentiment, en fait.
Oui, la deuxième, oui. Il y a là une sorte de colère...
Oui. Tout à fait.
Vis-à-vis de ressentiment vis-à-vis de la mère, parce que c'est un manque perpétué de dimanche en dimanche pour elle. Donc elle espère toujours, et donc dans cet espoir toujours inassouvi, il y a une exaspération. Mm-hmm. Et donc, bien que la mère... En fait, le moment où parle la narratrice dans cette deuxième partie consacrée à la mère, c'est après avoir passé encore une fois un dimanche... où elle s'est fait rabrouer, où il y a eu une absence de rencontre, et pour sauver la journée, elle va se promener dans le port, elle va se promener le long de la plage, pour respirer, pour mettre un espace, pour mettre de l'air entre cette journée qu'elle a passée dans cette chambre, dans cette seigneurie, et voilà, et son retour à une semaine sans cette mère, jusqu'à la semaine d'après, où elle ira encore comme une quémandeuse, comme une démarcheuse à qui la mère n'a jamais ouvert, voilà. Donc, oui, elle est je crois que le ressentiment est un terme.
Huguette, j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres circonstances, tu es l'auteur d'une série de prototypes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de livre du Goethe qui ressemble à un autre livre du Goethe. D'ailleurs, ils sont terriblement dispersés comme ça dans une géographie littéraire qui n'appartient qu'à elle. On faisait allusion tout à l'heure à ce livre terrible d'ailleurs sur le Rwanda, et dont on aimerait bien qu'il reparaisse d'ailleurs, ou qu'il trouve sa place dans une collection plus accessible, parce que c'est un livre, un très très grand bouquin. Et ceci, c'est ce qui est le plus frappant, je trouve, c'est que c'est seulement le livre d'une forme de maturité, c'est-à-dire une capacité que l'on a à un moment donné d'embrasser tout un parcours familial avec finalement à la fois beaucoup de respect et beaucoup de décontraction. Et en même temps, une très grande fraîcheur. C'est-à-dire que la petite fille, là, elle est là, terriblement. Julie est au moins aussi présent que Lydia. Comme si on arrivait à atteindre un niveau où tout ça n'est plus, comme dirait l'autre, perçu contradictoirement. On a l'impression qu'il faut beaucoup de patience pour arriver à cette sorte de simplicité, non ?
Oui, j'ai pris énormément de temps, finalement, pour écrire ce livre. J'ai pris 8 ans, voilà. Mais je publiais autre chose entre-temps, donc je laissais reposer, puis je reprenais. Je n'étais pas du tout contente de la structure, et c'est ça qui m'a pris du temps, c'est la composition. Donc écrire des passages, tout ça, ça allait très bien. Et puis, mais comment mettre tout ça ensemble, pour que ça devienne un tout harmonieux, et que ça roule comme une bille, finalement. Et d'ailleurs, tout à fait à la fin, j'ai fait un rêve. Je ne veux pas vous le raconter, mais finalement, bref, il y avait un puzzle qui se faisait. Et je mettais, ça ne faisait pas moi, c'était quelqu'un d'autre qui mettait une dernière pièce. Et là, j'étais contente, je dis, mais voilà, c'est ça. Et cet effet était venu, c'était là, et c'était bon, c'était OK.
C'était quoi, voilà.
Oui. Ça, je ne dis pas ce que c'était, mais donc ça, je ne dis pas ce que c'est, ça n'a pas d'importance. C'est curieux, mais c'est... Donc ça me chipotait parce que ça passe dans un rêve, ça veut dire vraiment que c'était important pour moi de réussir ce livre. Et alors je l'ai aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a Lydia et la petite Julie qui sont les deux principaux, et tous les autres sont en arrière-plan finalement. Ils ne sont presque pas décrit même. Il n'y a pas beaucoup de description personnelle. C'est le lecteur, c'est le choix du lecteur. Et je pense que les lecteurs réécrivent le livre allègrement. Ils sont très, très gourmands pour ça. Et ils ont plein d'imaginaire aussi, les lecteurs.
Mais c'est ce qu'il y a de commun entre les deux livres d'ailleurs, parce que le livre de Corinne est aussi un puzzle. Il est fait de pièces très nombreuses. Relativement autonome. Chaque fois, on a l'impression de petits morceaux de bravoure, comme ça. Et la composition, elle est là, parce qu'il y a un ordre dans lequel ces morceaux sont disposés, mais il n'est pas coercitif. C'est-à-dire que c'est un livre qu'on peut revisiter, un peu comme on l'entend, d'après des chocs qu'on a pu avoir, d'ailleurs. Il ne se défend pas contre une réorganisation. D'ailleurs, la lecture de la troisième partie entraîne presque nécessairement un retour au début. Ah
oui. Je ne sais pas, je n'en suis pas lectrice et je n'arrive pas bien à avoir ce point de vue-là. Et on me renvoie des choses parfois qui moi-même me stupéfient. Mmh. Donc quand on arrive au bout, on a besoin de revoir...
De vérifier.
De vérifier ce qu'était le père, ce qu'était la mère, oui. Pour voir...
Donc, finalement... Non, parce que c'était pas ce qu'était le père, puisqu'au fond, quand on arrive à la troisième partie, on les devine en filigrane.
Oui, ils sont toujours...
On les a vraiment découverts que dans le récit, soit de leur vie posthume, dans le cas du père, soit dans leur grand âge. Mais on doit juxtaposer ces différents profils de parents. Mm-hmm.
Si j'avais mis la première partie en début,
ça aurait été beaucoup moins intéressant.
Ah oui, il me semble qu'il vaut mieux arriver. D'abord, on a les causes et puis le symptôme arrive après. Quoi. Je trouve que c'est plus intéressant que si j'avais donné cette manifestation. ce qui est la conséquence, si je l'avais donné avant, c'est-à-dire que j'avais mis ça dans l'ordre chronologique, je m'en suis posé la question et je me suis rendu compte que non, j'ai essayé d'autres possibilités, parce qu'évidemment, dans tout mon examen du texte après, je me suis rendu compte que ça perdait de sa force.
On va lire un passage. Oh. Tu veux le lire toi-même ou...
Comme tu veux. Je peux, si tu veux.
Ben voilà, la page 62.
Quand elle habitait Bruxelles, il arrivait quelquefois que de passage dans mon quartier, ma mère s'arrête chez moi. Elle survenait à l'improviste, toujours à l'improviste, elle sonnait trois coups, incisif, saccadé. C'était son signal, une triple sommation. Elle s'asseyait sur le canapé, face à la fenêtre, son sac sur les genoux, sans enlever sa fourrure ni sa toque. Je me plantais devant elle, je parlais, je racontais. Dès son premier signe d'impatience, soupir ou trépignement du pied, prévenant son désir de partir, je dénichais un formulaire à remplir, je lui tendais le brouillon d'une lettre, je glissais entre ses mains un rapport médical, un résultat de radiographie ou d'analyse, j'improvisais quelques nouveaux projets professionnels, je voulais son avis, mais elle avait accordé un temps suffisant à sa visite. Sa Mercedes rouge était garée sur le trottoir, feu de détresse allumé. Elle expédiait son sac sur la banquette arrière, se glissait au volant et claquait la portière. Elle se campait bien droite, toujours coiffée de sa toque, ancrait son regard à l'étoile chromée du capot, démarrait. Je restais dans la rue, à agiter la main, attendant qu'elle se souvienne d'avoir oublié quelque chose. Mais elle n'avait rien oublié. Je remontais alors dans l'appartement, je demeurais immobile face au canapé vide qu'elle venait d'occuper. Je revoyais ses yeux bleus tournés vers la fenêtre, ses yeux bleus qui avaient contemplé les bourgeons sur les arbres, les nuages et le vent. Je m'arrête là ou est-ce que...
Non, tu peux prendre un autre passage de ton choix.
De mon choix.
Comme ça.
Oui, non, je choisis. Bon.
Mais on va prendre un passage du livre de Huguet. Si elle veut le lire elle-même, c'est celui qui commence justement à la page 35.
Les yeux de Julie sont de lynx. Ses doigts actionnent la souris, parce qu'elle est toujours devant son ordinateur. Elle a 6 ans. Hein. Ensuite, elle s'en va parmi ses peluches, ses poupées, ses jeux morts. La vieille est vivante, pleine de mouvements, même quand elle dort ou fait semblant. Elle doit entendre le parquet craquer sur la pointe des pieds, mais elle est sourde. Julie l'oubliait, donc elle dort pour de bon, à moins qu'elle ne ferme les yeux par lassitude. Même assoupie, elle intrigue. La respiration, les murmures qui viennent du ventre, un ongle crie sur le doigt, sur le drap, la poitrine se soulève avec un frottement de laine. D'imperceptibles remuements remplissent la chambre de mystère. Julie chuchote. Ses cheveux chatouillent l'oreille et la joue. La main de Lydia gratte la joue et l'oreille. C'est drôle, comme Douglas le chien qui éternue quand on lui passe une herbe sous la truffe. Julie se met à rire. Lydia ouvre les yeux. Que veux-tu, Julie ? Jouer avec toi, bonne mamie. Mais je ne sais plus jouer. Alors raconte la guerre, quand tes alliés pilotaient leur avion, c'était dangereux? Le vomissement des forteresses volantes monte de son vécu. Elle s'éveille tout à fait. Pas dangereux pour nous, mais pour les pilotes. Ils étaient courageux alors. Qu'est-ce que le courage? Lydia cherche en elle les motifs qui la poussaient à s'exposer. Le devoir et le plaisir. C'était leur devoir et ils aimaient le danger, le bruit du moteur, la nuit sans lune, les faisceaux de lumière et les boulets de la DCA devant, derrière, à côté de la carlingue. Sans mot, sans regard, ils pilotaient leur bombardier vers l'Allemagne qu'il fallait mettre à genoux. Qu'est-ce que c'est la DCA? Un canon contre les avions. Et toi, bonne mamie, qu'est-ce que tu faisais? Ton bon papa et moi regardions derrière les rideaux d'occultation. Les étoiles brillaient, les avions passaient, le grondement était un couvercle d'oppression. Parfois un incendie illuminait la vallée. Béatrice a raconté dans son journal. Elle écrivait tous les jours. Et toi, bonne mamie, tu écrivais ton journal? Moi, je vivais. On écrit quand on ne vit pas, quand on entend de la vie quelque chose d'inouï que l'Écriture apportera peut-être. J'ai vécu la peur, les ciels, l'étoile, le bruit des avions, les mitraillages, et je pensais à ces Allemands qui allaient mourir, à ces Américains et Anglais qui inexorablement portaient la mort vers l'Allemagne. Alors les Anglais et les Américains, c'étaient les mauvais. C'étaient les bons. Ils devaient terminer la guerre, et pour terminer une guerre, il faut la gagner. Et pour la gagner, il faut des morts allemands et des morts anglais. Lydia se tait. Elle a beau jeu de parler de mort dans l'abstrait, sans peur, sans frémissement, sans haut-le-cœur. Elle se scrute, serre les dents. Devant la mort, ce n'est pas de peur qu'elle crève, c'est de ne pas savoir. Le brouillard de l'inéluctable avance vers elle. Oui, elle crève de mourir chaque jour davantage, avec sa peau, ses yeux, ses oreilles, atteints par l'âge, mais un cœur de champion qui accroche la vie. « J'ai toujours aimé savoir, » dit Lydia. Elle ferme les yeux. « Je suis si fatiguée, » dit-elle. Julie n'ose toucher cette forme qui maintenant semble dormir.
Merci. Ça fait deux percées dans ces deux livres. Est-ce qu'il y a des questions sur l'un, l'autre, ou sur les deux? Il y a un autre passage?
Quelque chose que je pourrais te dire, mais ce n'est pas une question.
Oui.
Je suis frappée par certains points communs entre le grand menu, oui, et « Ma robe n'est pas froissée ». Une disposition en triangle avec le grand menu, hein, la narratrice, oui, le père, la mère,
oui,
un triangle avec trois points au-dessus, hein, mais aussi cette pointe ici, et par exemple, tu répondais à la question tout à l'heure, la petite fille du grand menu n'a pas de nom. Si je me souviens bien, parce que je ne l'ai pas relu récemment, on lui a donné un prénom qui ne convient pas. J'ai ça en tête, je me suis dit, on ne sait pas lequel, mm-hmm, je me suis dit, on lui a peut-être donné un prénom de garçon, je n'en sais rien. Mais ici, il n'y a pas de nom non plus. Et quand sa mère l'appelle, elle se trompe toujours de prénom, commence, oui, par donner le prénom, mm-hmm, de sa sœur.
Oui.
Il y a donc cette absence, mm-hmm, de prénom qui est évidemment l'absence de l'identité.
Voilà.
C'est,
oui,
très,
oui,
très frappant.
Oui. Hein, oui.
C'est très frappant, hein, un même symbole d'aliénation et de mort.
Dans le grand menu, elle dit, je n'ai plus le texte tout à fait par cœur, mais je connais ça. Non, mais que mes parents m'ont donné un nom pour ne pas me nommer.
Oui, oui.
Et donc, ils utilisent, pour la nommer, ils utilisent des diminutifs. Pitou, poulette. Le père a deux poulettes, la mère et la fille, d'ailleurs, ce qui montre qu'il est dans une sorte de d'attitude un peu perverse, parce qu'il appelle sa fille du même petit nom que son épouse, et il aime bien, enfin, il fait un peu l'amalgame. Donc, ce sont des diminutifs, elle est diminuée toujours. Si elle est appelée, c'est par diminutif, ou alors carrément des noms très, très désagréables. Voilà.
Enfin, il n'y a pas de prénom. Et alors, une autre chose à laquelle... Oui. Jacques parlait de ressentiment. Le ressentiment à l'égard de la mère, c'est, mm-hmm, que le rapport à la mère est un rapport d'adulte.
Mm-hmm.
La narratrice est adulte.
Ah oui, quand elle...
Alors qu'il y a le retour en arrière, mm-hmm, la mort du père, bon, elle est adulte aussi.
Mais dans les deux cas, oui, mais il y a beaucoup de flashbacks.
Mais enfin bon, la mère est toujours là, et la fille continue probablement d'espérer, mm-hmm, en vain. Mais c'est une adulte qui espère. Mm-hmm. Ce n'est plus une petite fille, c'est plus cruel encore.
Mais oui, elle attend toujours de cette mère un passeport pour l'existence, en fait. Donc elle est vraiment dans une demande de quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire d'être vue, d'être regardée, d'être aimée, d'avoir cet amour qui est nommé à la fin, là, entre Isabelle et Lydia. Mais que cela soit dit, parce que même peut-être si ça ne touche plus Isabelle dans le roman de Lydia, autant que ça aurait pu la toucher enfant, le fait que cela puisse être dit à un moment donné, quand même de l'existence, pourrait permettre, en tout cas dans le cas de cette narratrice, je crois, de lui donner simplement le droit à l'existence, le ressenti d'être mise au monde. Ça la mettrait au monde. Et c'est en cela qu'il y a ce ressentiment qui est si oui, fort, parce que c'est quelque chose d'essentiel qu'elle va demander chaque semaine avec ses tulipes dont on ne veut pas et avec ses cadeaux dont on ne veut pas. Et donc c'est quelque chose qui est pour elle, qui est fondateur. Et je crois que de là vient ce ressenti aussi de... exaspération.
Oui, mais justement, ce propos, la mère dit, en envoyant des cactus ou je sais quoi, des fleurs, elle dit ta maman qui t'aime. Mm-hmm. Mais c'est peut-être vrai qu'elle l'aimait, après tout.
C'est vrai qu'elle je l'aimait.
Oui, ça m'a frappé parce que donc la fille, elle prend ça pour rien. Donc la mère, chaque fois, mettait ta maman qui t'aime.
Donc, oui.
C'est quand même étonnant, ça. Et alors la fille, ça ne, il n'y avait rien. Hein?
Oui, mais, quoi? Oui, comme me dit Nami, c'est vrai que oui.
Ah, oui.
La fille garde la carte. Ce sont des cartes très formelles. C'est toujours la même façon. C'est à la fois lumineux et terrible. Donc c'est vrai que c'est mis en même temps. C'est-à-dire que c'est démenti par le comportement de la mère. Elle ne veut pas, elle ne propose pas, elle ne veut pas passer Noël ou l'anniversaire avec sa fille. Elle ne la voit pas. Elle envoie pour se décharger de la corvée un pot de fleurs, un petit palmier en pot ou un bouquet de tulipes, selon que c'est l'anniversaire ou que c'est la Noël, avec un petit bonhomme de neige piqué, un petit sapin piqué dans la terre. Et cette carte, toujours cette carte, ta maman qui t'aime, comme si c'était une formule toute faite.
Oui,
alors la fille la met de côté.
Elle aurait pu ne pas donner de pot de fleurs, rien du tout. Donc,
ah oui,
donc elle était quand même là, la mère. Elle venait quand même,
oui.
Elle restait devant la mère du Nord avec sa fille. Mais elle était à côté de sa fille, donc elle venait quand même rendre visite à sa fille. Donc il y avait quand même...
Non, sa fille vient de rendre visite.
Oui, ou la fille rend visite, oui. Là,
oui.
Là, c'est la fille qui rend visite. Oui,
c'est vrai qu'elle vient aussi. Elle vient aussi. Le passage que Jacques nous a demandé de lire. Oui, elle vient rendre
visite aussi
à sa fille. Oui, elle n'enlève pas son manteau, elle n'enlève pas sa tente.
Non, sa tente, mais seulement...
La voiture est dans la rue avec les feux d'alerte allumés. Mais
ça, c'est vraiment pour montrer que c'est 2 minutes qu'elle vient, pour 2 minutes. Mais enfin, elle vient quand même, bon.
Oui, oui,
je ne sais pas, il y a quelque chose là.
C'est un être humain.
Vous avez une question, je crois.
Oui, moi, c'était sur le travail d'écrivain, et je voulais savoir comment, si vous n'aviez pas un problème pour créer votre personnage sans lui donner un nom. Est-ce que c'est pas difficile de fabriquer votre personnage sans lui donner un nom?
Je crois que j'aurais du mal à lui donner un nom, parce que du coup, ça serait... Non.
Il y avait une question.
Ce n'est pas ça qui est au départ, c'est une émotion. Donc
moi, je n'ai pas lu les livres, mais j'aimerais faire référence aux deux fragments. Et ce qui me semble très intéressant, c'est que lorsqu'on est deux personnages, en l'occurrence, c'était deux personnages qui étaient ensemble. Et quand on est deux dans une relation, il y a un troisième qui est la relation. Mm-hmm. Et dans le cas du fragment du texte, du roman du texte, c'était comme si cette relation était nourrie par un dialogue, par des choses, par des sentiments et par des fragments d'histoire qui devaient s'insérer entre les deux. Ce qui m'étonne, c'est qu'est-ce qui se passe dans la relation de votre livre? Pourquoi cette relation n'est pas nourrie? De quel côté vient ce fait que même s'il y a des présents, ils sont en présence l'un et l'autre. Et la relation n'est pas nourrie. Et ça va être très important.
Mais je crois que la...
De quelle nourriture, oui.
Affective.
Oui.
Affective. Est-ce qu'il n'y a pas?
Mais je pense que ça rejoint ce que Corinne a dit au début, dans le souci d'écrire un texte qui ne contienne pas de commentaires, ou le moins possible de commentaires. À partir de là, le commentaire est suscité. Le commentaire, il nous appartient. Et il peut aller dans beaucoup de sens. La question, évidemment, est de savoir si la non-nourriture du dialogue est là parce qu'on n'y a pas mise, ou si elle est introuvable, en fait. Mm-hmm. Hein? Parce que c'est ça la liberté de l'écriture.
Oui.
Que,
et de la
lecture. Je revendique bien du romanesque, c'est-à-dire, et de l'écriture, mais de l'écriture en l'occurrence romanesque. C'est pas de la poésie, c'est un récit.
C'est un roman, hein? Oui.
Donc, voilà, cette relation n'y a pas été mise, Est-ce que pour autant elle est inexistante? Ou est-ce que nous ne sommes pas en mesure de l'y substituer? Je passe une question.
Pour Madame de Broqueville, elle existe puisqu'elle se fait l'avocat de la défense de la mère. Donc c'est bien qu'elle voit quelque chose entre la mère et la fille.
Oui, mais elle existe. Elle est d'ailleurs, vous l'avez perçue chez, dans le livre, dans Lydia, vous le percevez. Oui. Et dans l'extrait que Madame de Broqueville a lu, non. Vous le percevez. Oui. Dans mon extrait, vous ne percevez pas cela parce qu'il n'y a pas cette nourriture.
Non, je vois un autre type de relation entre les deux personnages.
Oui, bien sûr.
Les deux personnages.
Oui.
Et c'est comme si chacune d'elles donnait à l'autre des actes factices. Une carte. Mais pas un regard, présence, mais pas vraiment un lien. Donc c'est les deux. La fille est frustrée, mais elles n'ont plus. Comment fait la fille pour être dans le même non-lien avec sa mère?
C'est le thème du livre, un peu. Oui, c'est ça. Donc, c'est le thème du livre, c'est le fait qu'elle, c'est que le non-regard, c'est le fait qu'elle n'est pas investie du regard de ses parents, fait qu'elle n'a pas de ressenti d'existence, et que par la suite, quand elle se retrouve quand elle rencontre quelqu'un, elle ne se sent pas d'identité, d'identité respectable, et qu'il est presque autorisé à cet homme, donc, de la traiter comme un objet, étant donné qu'elle est traitée comme un objet par le père, enfin, je schématise un peu, par le père, par la mère, donc quand elle se retrouve face à ce premier homme, pour elle, il serait plus grave qu'elle casse un carreau pour appeler au secours, ou qu'elle froisse sa robe, que d'être frappée. Dans cette troisième partie, elle est maltraitée, elle est frappée, elle est battue, elle est violée. Et pour elle, il serait plus grave d'abîmer quelque chose d'autre que d'être abîmée elle-même. Donc elle a d'elle-même très peu de conscience. Cette conscience aurait pu lui venir par un regard. Et c'est en fait la démonstration de cela. C'est pour ça que ces textes sont mis dans cet ordre-là, parce que il m'était important de montrer comment ça plus ça donne ça. Voilà, il y a cela aussi. Mais c'est, la question que vous posez est précisément la thématique que j'aborde.
Avant de lire le livre.
Ah oui, oui.
Il y a évidemment une négation, hein. C'est une occultation. Lui se lève, se rajuste, descend dans la salle à manger, à la place qui lui est réservée, et pose sa main parfaitement manucurée sur le métal poli de son anneau de serviette. Ma mère apporte la lasagne, je vous sers, demande-t-elle à son futur gendre. Ma chaise reste vide, elle mangera froid comme d'habitude, siffle mon père. J'ai craché dans le lavabo, je me suis essuyé, plus rien ne tient ensemble, mais ça ne se voit pas. Ma robe n'est pas froissée. Je n'abîme pas mes affaires. Et puis, personne ne me regarde. Moi non plus. Je ne sais pas d'ailleurs comment on regarde pour se voir. Je descends m'asseoir à table, ils ne disent rien, ils ne tournent pas les visages vers moi. Il n'y a rien eu là-haut dans la chambre. C'est pas un hasard que ce soit de là que vienne la phrase du titre.
C'est un peu comme la pièce du puzzle qu'a trouvé Huguette dans son rêve. Il y a eu, début septembre, tout à coup, quand je devais faire la quatrième couverture, j'étais pas contente des titres que j'avais. Et tout à coup, en relisant comme ça, je me suis dit, le titre est dedans quelque part. Le titre est dans le livre. Et je suis tombée sur cette phrase-là et c'était là.
C'était
une évidence pour moi. Oui. Mais évidemment, quand on n'a pas lu le livre et qu'on voit le titre comme ça,
et la photo.
C'est très peu de temps après, il y a eu la photo avec ce regard assez lourd. Oui.
Voilà.
Il y a une phrase très belle dans le roman de Huguette à propos de Julie, que j'ai relevé en relisant encore aujourd'hui, la façon dont Julie voit son arrière-grand-mère mourir, Julie qui est toujours sur les jeux d'ordinateur, etc., dans son lit, bonne mamie cherche à sortir de l'écran. J'ai trouvé que cette image donnait une très très belle façon de voir la mort. Enfin voilà, j'avais voilà. Merci. Bon.
Merci beaucoup à vous deux d'avoir tenté ce jeu difficile d'ailleurs, avec deux livres à la fois proches et si éloignés. Merci aussi, de votre attention, et puis les livres sont là.
Oui, et merci beaucoup, Jacques.
Merci, Jacques.
Avec plaisir.
Pour toi, le jeu peut être tout aussi...
Parce que tu as pu lire et tu as très, très bien.
Merci.
Non, c'était pas ça.
Quelle dédicace.